France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Week-end. Et ce matin, quelques petits plaisirs pour bien commencer l'année 2025. Rituel cosy, livres, séries, films, feel good, plats réconfortants. Nos invités, nos chroniqueurs et amis du vendredi ont enfilé leurs chaussons et apporté leurs plaids pour partager leurs petits délices qui rendront la vie un peu plus douce en ce début d'année 2025, une année qui s'annonce plus incertaine que jamais. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Qui a quitté son pull de Noël, professeur de philosophie dans la vraie vie. Quel est le menu de votre chronique philo ?
Eh bien, puisque l'année commence, on se demande si cette année, il va falloir être optimiste ou pas.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique cinéma Télérama, dans le monde réel, qui deviendra notre ami cette semaine ?
Alors en fait, cette semaine, c'est un ami ennemi, tout simplement, parce que c'est... je m'attaque à un gros truc. Oh, c'est l'année 2024.
Rien que ça.
Bah, ouais.
Bonjour Sandra Colombo.
Bonjour Ali.
Humoriste et comédienne, au menu de votre chronique Mauvaise Langue, en fin d'émission.
Eh bien, doit-on ou non prendre des bonnes résolutions ? Je fais un petit peu mon Thibaut de Saint-Maurice.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse.
Et pour partager quelques petits plaisirs et bien commencer l'année 2025, quelques invités. Julie Neveu, bonjour.
Bonjour Ali.
Maîtresse de conférences en linguistique à la Sorbonne. Les pieds sous la table cette semaine, vous n'avez pas de chronique avec
non,
la langue. Hein,
vous
êtes tranquille. Bonjour Christina Pelledouel.
Bonjour Ali.
Journaliste indépendante qui a la bouche pleine, qui est en train de déguster un bagel au saumon.
Non, non.
Si, si. Bonjour Théodore Dillerin.
Bonjour Ali.
Libraire au comptoir des mots dans le 20e arrondissement de Paris. Bonjour Grégory Cohen.
Et bonjour Ali Rébéi.
Chef des restaurants One Place à Rungis dans le Val-de-Marne. Et c'est vous qui avez assuré le service avec les bagels saumon dont se régale Christina. Et il y a avec nous évidemment Julien Bisson. Bonjour.
Bonjour Ali, très bonne année à vous.
Tout nouveau directeur des rédactions du 1 Hebdo, du 1 des libraires et de Légende. Bonne année à toutes et à tous.
Bonne année.
Bonne année. Bonne année.
Alors, comment abordez-vous cette année 2025 ? Quel est votre état d'esprit face à une année qui s'annonce assez instable d'un point de vue politique, géopolitique, social, économique, climatique, qui se lance ? Sandra Colombo.
Alors, moi, je me suis dit, bon, écoutez, le monde brûle, faisons des blagues. Prenons soin de nous et de ce que nous sommes, nous. Voilà, les gens qu'on aime et ceux qui sont autour de nous et qui n'ont pas été gagnés par la folie du monde.
Thibaut de Saint-Maurice.
Alors, je ne vais pas vous dévoiler l'objet de ma chronique tout à l'heure, mais non, en pleine lucidité, il y a une jolie quote, comme on dit maintenant, une citation de René Char qui dit « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil ». Voilà, soyons lucides parce que nous serons à la fois réchauffés, éclairés et peut-être un peu brûlés par ce soleil.
Je note, Thibaut, redites-la s'il vous plaît.
La lucidité est la blessure la plus proche du soleil.
Guillemette Odissino.
Alors c'est compliqué de passer après ça. Merci Thibaut. Moi le problème c'est que j'ai l'impression que si je prends la parole, ça va être comme un discours de Miss France. Mais en fait, ils ne sont pas si nuls que ça les discours de Miss France. C'est un peu plus de paix dans cette cochonnerie de monde actuel. Ce serait quand même pas du luxe.
Julien Bisson.
2025, ça veut dire que le bug de l'an 2000 a un quart de siècle.
Non,
et que ça ne nous rajeunit pas.
Grégory Cohen.
Moi, comme Sandra, le monde brûle, mais faisons des chamallows. Non, indépendamment de ça, c'est surtout que.
Pas mal comme idée.
Ouais, René Char. c'est surtout que. Non, mais moi, quand je vous vois avec le smile, quand je vous vois avec la même énergie et que j'imagine nos auditeurs qui nous écoutent et qui ont aussi le smile, je me dis que 2025. Eh ben, ça va être une bonne année si on le veut.
Théodore Dillerin.
Oh ben, après une année 2024 bien corsée, moi je suis assez optimiste pour 2025. Allez, j'ai envie d'apporter de l'espoir.
Ça peut pas être pire, c'est ça, ça
Christine Appelé-Douel.
Ça, je suis contente d'entendre Théodore dire qu'il est optimiste. J'ai envie de partager son optimisme, mais j'avoue que j'ai un petit peu de mal. Alors je crois que je vais acheter de l'écran total pour éviter de brûler.
Allez, place au petit plaisir.
Au plaisir et bon amusement.
Merci.
Alors, des petits plaisirs, des rituels cosy qui permettent d'amortir la période anxiogène que nous sommes en train de vivre. Vous, par exemple, Thibaut de Saint-Maurice, eh bien, c'est d'avancer l'heure du dîner le dimanche.
Oui, voilà, pardon, effraction dans mon intimité familiale. C'est quelque chose que je tiens de mes parents et que j'essaye de reproduire vraiment sans aucune culpabilité avec mes enfants. Voilà, il suffit de décaler le dîner du dimanche d'une heure à une heure et demie, c'est-à-dire de dîner fraîche comme nos amis anglo-saxons vers 18h30. Et du coup, ça ouvre une grande soirée avant la reprise de la semaine, tout à fait dévolue à un jeu, à une séance de cinéma en famille, à regarder des albums photos ou regarder des photos sur des écrans. Mais c'est toujours très, très joyeux. Et en fait, on a l'impression d'avoir une grande et belle soirée et ça fait passer le blues du dimanche soir.
Pas mal, pas mal. Alors vous, Sandra Colombo, le canapé reste un lieu d'ancrage fondamental
ma zone de confort
dans votre vie, avec une BD, une tisane, un canapé donc. Et pour vous, là, c'est le trio réconfortant dès que vous le pouvez.
Un petit plaid et un chat. Et ça, là, c'est la fête. Moi, j'adore ça, les tisanes. Ça fait un peu mes mères, hein. Ça a quand même un peu mauvaise réputation, mais il y a des hyper bonnes tisanes qui sentent l'hiver, qui sentent ce qu'on veut, l'été, tout, à n'importe quel moment de l'année. Et puis, des bandes dessinées. Moi, je ne suis pas très fan de BD, mais là, j'en ai trouvé une qui est géniale, qui s'appelle Les Envahisseurs, de Marc Dubuisson. C'est l'histoire de petits bonhommes qui viennent sur la Terre et qui se rendent compte de ce qu'on fait et qui sont complètement halluciné, et je trouve ça drôlissime. Et franchement, ça fait passer un hyper bon moment et on se déconnecte bien du monde ambiant.
Théodore Dillerin, moi je partage votre rituel, mais plutôt le week-end. Vous lever très tôt le matin pour lire, accompagné d'une bonne tasse de café.
Ouais, absolument. Alors pas tous les jours, hein, mais une à deux fois par semaine, je mets mon réveil une ou deux heures plus tôt, je me pose dans mon fauteuil avec mon café, et soit je bouquine ou dans ma baignoire aussi, j'écoute de la musique et je prends du temps qualitatif quand le reste de la ville est endormi avant
vers
le reste de la journée. 5 heures parfois.
Moi j'ai dit que c'est cosy ça.
Pas tous les jours.
Je le comprends totalement. Moi le week-end, me lever très très tôt.
Merci,
c'est un véritable plaisir. Alors vous, Grégory Cohen, vous êtes un grand amateur de pantoufles. Dès que vous rentrez à la maison, il vous est même arrivé de venir dans cette émission avec d'horribles pantoufles fourrées. Mais vous, vous êtes un très grand...
2025, c'est comme 2024, en fait.
Vous êtes un très grand amateur de pantoufles.
Mais oui, mais alors là, je me sens tellement honteux parce que d'un seul coup, j'ai Thibaut de Saint-Maurice qui m'explique qu'il faut qu'il passe plus de temps, donc qu'il change l'heure, etc. Et moi, j'arrive chez moi et d'un seul coup, j'enlève mes chaussures. Et je me mets dans des pantoufles. C'est un rituel qui est complètement peut-être débile et anodin, mais c'est vrai que quand je commence à rentrer dans mes petites pantoufles chez moi, j'ai décompressé complètement, j'ai fermé le sas de l'extérieur.
Est-ce qu'il y a tout un cérémonial, comme la cérémonie du thé? Est-ce qu'il y a tout un cérémonial de la pantoufle?
Eh bien écoutez, oui, effectivement, il y a tout un cérémonial de la pantoufle. J'ai mon chien, Scooby-Doo, qui arrive, et avec les pantoufles dans les dents, il me les pose d'abord la gauche, toujours, il démarre par la gauche. C'est très important de ne pas démarrer par la pantoufle droite. Et enfin, une fois que j'ai les deux, je me sens bien.
Alors vous, Julien Bisson, votre couette, c'est un peu votre ami imaginaire.
Oui, alors non, moi, il y a deux rituels. Il y a deux rituels qui permettent de se réconcilier avec l'hiver chaque année. Il y a l'ouverture de la saison de la raclette. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec les années, l'ouverture est de plus en plus précoce.
Oui. Et,
et la deuxième, c'est le moment où tu rajoutes la couette d'hiver à la couette d'été. J'ai investi dans des couettes clipsables. Et donc, à un moment, on met la couette d'été, après la couette d'hiver, et après, tu mets les deux dans la housse de couette. Et là, c'est le rituel cosy. Parce que d'un seul coup, on a très très chaud.
Le type habite en Finlande. Hein.
On a très très chaud. Et donc, on rajoute une couche de couette, on enlève une couche de vêtements, du coup, sous la couette. Et donc, ça nous permet de vraiment nous réconcilier avec l'hiver.
Et est-ce que vous amenez votre couette à la rédaction du 1 Hebdo?
Non, ce sera vraiment une drôle d'idée.
Oui. Alors vous, Guillemette Odissino, pas de couette, mais une terrasse et si possible du vin chaud.
Oui, est-ce que vous êtes mignons tous là? Alors déjà, vous êtes tous des hommes et des femmes d'intérieur, j'ai l'impression. Et puis vous buvez des tisanes et des cafés à 3h du mat. Alors pardon, mais moi j'aime bien, au contraire, l'hiver, quand il fait bien froid, que la nuit est déjà tombée, que potentiellement c'est un peu le cafard à l'extérieur, d'aller sur une terrasse, de commander un vin chaud. Heureusement, dans les bistrots maintenant, ils fournissent les plaids. Il n'y a même pas besoin de prendre le sien ou sa couette double face, là. Et de regarder les lumières et les gens qui passent. Et moi, ça me fait rêver, ça. Et je rêve, en fait, souvent mieux à l'extérieur que à l'intérieur de chez moi, où j'ai tellement de trucs à faire qu'en fait, j'ai juste à me tourner vers le frigo, vers la cuisinière pour avoir envie de fuir.
Alors vous, Julie Neveu, oui. C'est le Qigong qui vous réconforte le soir venu. Le Qigong, c'est une gymnastique traditionnelle chinoise associée à une pratique de la respiration.
Oui, tout à fait. Qi, ça veut dire le souffle, en fait. Et donc, il s'agit de faire circuler le souffle. Et pour ceux qui ont le cerveau qui fume un peu trop, comme moi parfois le soir, en fait, ça aide complètement à dormir. Et je le fais vraiment 3 minutes. Hein, parce qu'avant, il y a une époque, je faisais vraiment du Qigong et je me souvenais des mouvements, des enchaînements. On imite des animaux. C'est vraiment des postures de recueillement. On se retrouve à la fois vraiment posé. On imagine, il y a des images. On a l'impression d'être dans la nature, vraiment n'importe où, dans un petit endroit. D'un coup, on est bien. Et donc, notamment, il y a la posture de l'arbre où vous avez juste à lever les bras et à faire descendre tout doucement et rattraper tout ce qui circule en haut et le ramener vers la terre. Et c'est absurde parce que vraiment, je fais vraiment 3 mouvements, mais ça m'aide complètement à me calmer.
Et associé à des exercices de respiration.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut en même temps qu'on baisse les bras, par exemple, on expire. C'est juste ça. C'est-à-dire être à l'écoute de sa respiration, la faire descendre et redescendre. Tout le monde se marre autour de moi. Ricane. J'aimerais dire que les gens ricanent. C'est absolument.
Ah non, moi, toute la partie qui dure que 3 minutes, ça me va très bien.
3 secondes à la 10, c'est même mieux.
Allez, il est l'heure de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino.
Bon, je tiens à préciser que la transition est un petit peu compliquée avec ce que je vais dire maintenant, mais bon. Alors, cher Ali, en septembre dernier, je vous avais promis d'alterner mes admirations et mes détestations. Mais bon, vous le savez, j'ai toujours rêvé de pouvoir mettre sur mon CV « profession admirante ». Et donc, au milieu de beaucoup d'amis du vendredi, imaginaire ou pas, je n'ai finalement réussi qu'à écrire 2 chroniques ennemies. Alors, pour entrer dans 2025 la tête haute, j'aimerais vous parler de 2024, qui a ressemblé aux mains tatouées de Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur, amour d'un côté, haine de l'autre. 2024 est donc terminé, et franchement, c'est pas une perte. À bien des égards, cette année a mérité qu'on lui éclate la gueule. Et il n'y a qu'à citer quelques acronymes ou noms propres, enfin non, justement, pas propres du tout, pour que la honte et la colère nous colonisent. Netanyahou, Hamas, Poutine, Trump... avec des morts qui se comptent par dizaines et centaines de milliers dans tous les camps. En Iran, le mouvement Femmes, Vie, Liberté continue d'être violemment réprimé. Nos élections, elles, ont de plus en plus ressemblé à des brèves du Gorafi. On a voté pour un bord, c'est un autre qui a gagné. Je me croyais à gauche, on m'a expliqué que j'étais à l'extrême gauche. Je te déteste 2024, car tu as érigé la discorde en maître étalon. Et qu'il n'y a plus été possible d'avoir la moindre conversation politique avec des amis qui, en une phrase maladroite, devenaient nos ennemis idéologiques. La nuance était déjà moribonde depuis longtemps, mais 2024 a été sa fossoyeuse.
Bon, allez, pour nous remonter un peu le moral, Guillemette, est-ce que tout de même, dans tout ce bruit et toute cette fureur, 2024 a été tout de même un peu votre ami ?
Alors, comment trouver du bon, du chaud, du tendre, au milieu des chaos ? Histoire coûte que coûte de se réconcilier avec l'humanité, allons-y. Toute ma considération va à 2024 grâce, ça c'est vrai, en soi une surprise, au sport.
Oui, parce que sport et Guillemette au
Disney. Oui, non, mais ça, oui, enfin, c'est vraiment, c'est antinomique. Alors soudain, ce truc que je ne pratique pas a pendant quelques jours créé une parenthèse enchantée. Vous vous souvenez comme on râlait ? Ouais. Les JO à Paris, ça va pas marcher, ça va être le bordel, il y a du caca de rat dans la Seine, gna 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 gna. Et on s'est tous retrouvés scotchés devant notre télé, ou à essayer désespérément d'obtenir des places pour voir des sportifs du monde entier arracher le podium en canoë slalom ou en BMX freestyle. Grâce à des hommes et des femmes qui se battaient pour des médailles en faisant couler la sueur mais pas une goutte de sang, les plus cyniques ont fermé leur bouche et un chanteur à poil, peint en bleu, est devenu une star en Chine. Et puis, les Jeux paralympiques ont été un énorme succès d'audience. Et puis, le 21 février, Missak Manoukian est entré au Panthéon. Et puis, Abou Sangaré aura peut-être ses papiers grâce à la force d'un film, l'histoire de Souleyman. Et puis, il y avait les visages de Jodie Foster et de Meryl Streep, la voix de Billie Eilish, le courage de Gisèle Pellicot et de Yulia Navalnaya. Et puis, il y avait des gens qui lisaient Toni Morrison ou Milan Kundera. Et puis, il y a eu des gens qui s'embrassaient, des gens qui s'engageaient, des gens qui s'embrasaient devant les injustices, des gens qui ne baissaient pas les bras. Alors, que nous prépare 2025 d'horrible ou de consolateur ? Comme disait Pierre Dac, les prévisions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir.
Et c'est vrai que l'image de Gisèle Pellicot, tout de même, aura marqué cette année 2024. Merci beaucoup, Guillemette Odissino. Tous les épisodes de L'Ami du Vendredi sont à podcaster sur l'appli Radio France. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Alexia Rivière, Nathalie Romero et Stéphanie Valois, avec l'aide de la machine de guerre Lucie Grandet-Lavigne. À la réalisation cette semaine, Claire Destacan et David Leprince. À la programmation musicale, Valentine Chedebois. Merci aux documentalistes, aux standardistes et aux techniciens qui se sont succédés tout au long de la semaine. Alors, dans un instant, quelques petits plaisirs pour bien abordé 2025. On se retrouve juste après avoir écouté REM Shiny Happy People, une chanson de 1991. REM interprété Shiny Happy People.
Bonne année, non, bonne année, c'est bien, bonne année. En France, on est le seul pays qui souhaite la bonne année jusqu'à fin février. Hein.
Grand bien vous fasse.
Des fois, t'oublies, t'es dans un autre délire, et genre, le 19 février, t'entends, et puis une excellente année à vous.
Ali Rébéi.
Grand bien vous fasse week-end, et quelques petits plaisirs pour bien commencer l'année, comme Erin Brockovich.
Je m'appelle Georges, et vous ?
Je suis la bonne femme d'à côté qui ne veut qu'une chose, le silence.
Si je vous invitais à dîner, pour m'excuser de mon impolitesse, vous me donnez votre numéro, j'ai déjà votre adresse. Et je vous téléphone bien comme il faut et je vous invite à dîner.
Vous voulez mon numéro ? Vous voulez quoi comme numéro ?
Je sais pas, vous en avez beaucoup.
Oui, j'ai des numéros plein les poches. Vous voulez un exemple? 10.
10?
Oui. 10 mois, c'est l'âge de ma petite fille.
Vous avez une fille?
Oui. Mais sexy, hein? Vous voulez un autre numéro? 6, c'est l'âge de mon autre fille. 8, c'est l'âge de mon fils. 2, c'est le nombre de fois où je me suis mariée et divorcée. 16, c'est le nombre de dollars sur mon compte en banque. 850, 39, 43, ça c'est mon numéro de téléphone. Et avec tous les numéros que je viens de vous filer, 0, c'est le nombre de fois que vous téléphonerez.
Alors Sandra Colombo, un film qui donne vraiment envie de se battre contre les injustices en ce début d'année 2025, eh bien c'est Erin Brockovich, Seul contre tous de Steven Soderbergh, sorti en 2000 avec Julia Roberts.
Avec l'incroyable Julia Roberts qui, quand elle sourit, illumine le monde. Quand on a un coup de blues, il suffit de regarder une photo de Julia Roberts où elle sourit et là ça y est, hop, plus de caries, plus rien. Tout va bien. Moi j'adore ce film parce que c'est vraiment David contre Goliath. C'est vraiment l'histoire de cette femme qui va se battre contre beaucoup de choses, beaucoup de préjugés, contre une industrie énorme, toute seule avec ses petits bras musclés, et elle va faire plier un géant américain en faisant ce qui s'appelle une class action, en réunissant des gens qui ont tous la même maladie à cause de l'eau contaminée, et faire payer l'industrie. Et c'est ce film, et moi j'adore, je peux le regarder 10 fois par an.
Guillemette Odissino.
Bon, je suis d'accord, il y a vraiment quelque chose de... En plus, c'est une histoire vraie,
oui,
mais qui ressemble à une histoire de cinéma, parce que c'est tout ce qu'on aime dans le cinéma américain, c'est quelqu'un qui se bat, qui se bat, qui se bat, et bon sang, il gagne à la fin, enfin là en plus elle gagne à la fin, et puis Julia Roberts sera là en invitée exceptionnelle des Césars cette année au mois de mars, donc hey, youpi.
Et moi ce que j'adore aussi c'est qu'elle joue avec les préjugés qu'on a sur elle est hyper jolie et elle en joue vachement pour faire plier les gens, etc. Et je trouve ça extrêmement intelligent, on a l'impression qu'elle est un peu bébête, et en fait c'est une bombe. Voilà.
Alors Christilla Pelédouel, vous avez choisi le film belge Poulet frites de Jean Libon et Yves Inan, sorti en 2022.
Alors je ne sais pas si je suis la seule ici à l'avoir vu. Non, je suis persuadée que Guillemette l'a vu. Et c'est un petit bijou à la fois d'humour noir belge, je précise, mais aussi de tendresse, de réflexion sociale. Et c'est un documentaire, je précise, donc tout ce qui est dans ce film est la vérité. Ils ont suivi donc l'équipe qui est l'ancienne équipe de striptease de l'émission belge culte. Ont suivi l'incroyable juge d'instruction de Ni juge ni soumise, Anne Cruet, et un commissaire de police incroyable qui mène l'enquête tous les deux sur un crime atroce, je préfère vous le dire tout de suite, mais dont la conclusion est absolument invraisemblable. On ne pourrait pas imaginer un scénario comme ça. Et le tout, c'est vraiment... Mais d'abord, c'est à mourir de rire. Et ensuite, c'est cette capacité de faire du réel plus fort que la fiction.
Poulet frites de Jean Libon et Yves Inan. Théodore Dillerin, un film qui lui fait du bien, c'est Thelma et Louise, sorti en 1991, un film de Ridley Scott avec Gina Davis, Susan Sarandon et les fesses de Brad Pitt.
Et les fesses de Brad Pitt qu'on voit pour la première fois au cinéma, parce que c'est ce film qui l'a révélé. D'ailleurs, j'ai l'affiche chez moi et j'ai vu son nom n'est même pas sur l'affiche lors de la sortie en 91. Ouais, ben voilà, moi c'est un film que j'aime voir, revoir encore et encore. Une ode à la liberté, des héroïnes badass. Honnêtement, ça fait du bien, quoi.
Badass, ça veut dire quoi?
Elles sont ultra...
Je fais exprès de ne pas savoir. Hein. C'est pour ma mère.
Je ne sais pas si on peut traduire exactement comme
badass,
ça à la radio.
C'est exactement comme Julia Roberts dans...
Oui,
oui, dans Erin Brockovich. C'est à la fois très sexy et très powerful. Alors là aussi, pour votre maman. Alors, en fait, c'est... Non, mais c'est...
Puissante.
C'est être puissante sans forcément s'habiller en costard-cravate, vous voyez ce que je veux dire.
Alors, Julie Neveu, la même année...
Oui, la même année.
En 1991, sortait Talons aiguilles, ouais. Tacones lejanos, de Pedro Almodovar. Oui, c'est sûr, avec Marisa Paredes, Victoria Abril, Javier Bardem, Miguel Bosé.
Ouais.
Ben ouais, c'est un de mes films préférés, mais j'ai pas trop de recul parce que je l'ai vu à l'adolescence, donc, et vraiment gros choc, film tout en rouge, hyper lyrique, les canapés sont rouges, les rouges à lèvres sont rouges, les téléphones sont rouges.
Comme votre bonnet là actuellement.
Mon bonnet.
Vous avez gardé le bonnet de Noël. Hein.
Oui, c'est pour nous se mettre dans l'ambiance, ouais. Continuer là à la fête. Et donc c'est ce tête-à-tête entre Rebecca, Victoria April, jeune journaliste de télé qui vit avec l'ex-amant de sa mère, et donc le tête-à-tête entre la fille et la mère qui revient, qui reprend son amant, et donc ce bruit, les talons aiguilles, c'est le bruit des talons que Rebecca, petite fille, entendait avant de s'endormir. Sa mère qui est la féminité glaciale et glorieuse, à la fois fragile et cruelle et tout. Enfin, c'est bouleversant, j'adore, il y a une des scènes érotiques les plus dingues du cinéma.
Qu'on ne dira pas cette heure-là.
Qu'on ne dira pas.
Donc, talon aiguille d'Almodovar. Ouais. Julien Bisson, pourquoi avoir choisi de revoir la trilogie Before Sunrise, sortie en 1995, Before Sunset, sortie en 2004, et Before Midnight, sortie en 2013, du réalisateur américain Richard Linklater, avec Ethan Hawke et Julie Delpy?
Parce que ça ne se voit pas toujours, mais j'ai un petit cœur romantique. Et que mon histoire d'amour préférée au cinéma, c'est l'histoire d'amour entre Jesse et Céline, donc jouée par Ethan Hawke et Julie Delpy, et qui est à chaque fois dans chaque film, c'est une journée ou une nuit ou vraiment une soirée. Et donc Before Sunrise, ils sont tout jeunes, ils sont à Vienne, ils se rencontrent dans un train. Before Sunset, ils se retrouvent à Paris 9 ans plus tard et ils se baladent dans les rues parisiennes. Before Midnight, ils sont sur une île grecque. Et à chaque fois, on va retrouver ce couple à des moments différents de leur vie et on va vieillir avec eux. Et j'ai qu'un seul regret, c'est qu'à chaque fois, il y avait 9 ans entre chaque film. Et donc, en 2013, le dernier, on s'est dit 2022, est-ce qu'il va y avoir encore un film? Et 2022 est passé sans qu'il y ait de nouveaux films. C'était le moment où j'ai eu mon cœur s'est un petit peu brisé, comme il y a beaucoup de fois, il s'est brisé en regardant ce film. Mais ils sont toujours aussi beaux et ils sont toujours aussi formidables.
Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. Alors vous, Guillemette Odissino, vous avez choisi En Liberté de Pierre Salvadori, sorti en 2018.
Ah oui, non, mais alors, si vous n'avez pas vu cette comédie policière, je vous en supplie, vous allez, déjà, vous allez tellement rire. Parce qu'en fait, c'est pas si simple quand on conseille des comédies. Là, je pense que c'est absolument impossible que vous ne riez pas à une scène de braquage d'une bijouterie où Pio Marmaille et Adèle Haenel, en fait, sont déguisés, ont des masques de sexe sadomaso, mais parce que, en fait, c'est les circonstances qui créent ça. Bon, enfin, en gros, c'est l'histoire de Adèle Haenel, c'est la veuve d'un policier, vous savez, ce genre de policier, comme ça, très moulé dans les jeans, toujours une arme à la main, super héros, etc., qui, évidemment, résultat, est un pourri. Et en fait, une erreur judiciaire lui prend la tête à Adèle Haenel, et elle va essayer de faire se réinsérer Pio Marmaille, complètement chien fou, mais complètement taré, qui en fait, je pense, n'a pas vraiment envie de se réinsérer. Et entre ces deux-là, mais on a l'impression du meilleur de la comédie hollywoodienne des années 40 ou 50. C'est drôle, c'est plein de charme et de trouvailles extraordinaire. Pierre Salvadori est un génie de l'écriture.
Sandra oui, je Colombo. Suis tout à fait d'accord sur le génie d'écriture de Pierre Salvadori. Il a fait un autre film que j'adore, dont je ne retrouve pas le nom, tu vas me le dire, Guillemette, le truc avec la fente au plafond, là, avec...
Ah oui, alors je ne me souviens pas du titre non plus, mais c'est avec Catherine Deneuve.
Avec Catherine Deneuve.
C'est avec Catherine Deneuve. Et Gustave Kervern.
C'est avec Catherine Deneuve.
Et Gustave Kervern, et c'est génial. Mais Pierre Salvadori, très fort en écriture, je suis d'accord.
Donc, En Liberté de Pierre Salvadori. Thibaut de Saint-Maurice, votre âme d'enfant vous porte vers le film d'animation Zootopie des studios Disney. Le second volet sortira cette année d'ailleurs.
Oui, âme d'enfant et pas que. Aussi âme d'adulte qui regarde ses enfants apprendre justement à regarder ce genre de film. C'est tout le génie de Disney, parce qu'il y a du génie dans Disney. C'est l'histoire d'une petite lapine minuscule qui s'appelle Judy Hopps et qui grandit dans une famille d'éleveurs de carottes, donc sa famille de lapins, et qui veut devenir policière. Elle arrive donc à Zootopie, la ville où tout est possible et on peut devenir tout ce que l'on veut, en fait. Vous pouvez devenir tout ce que vous voulez. Très belle promesse, d'ailleurs, d'émancipation et de développement. Sauf qu'elle commet une erreur au début de sa carrière de policière et qu'il lui reste 48 heures pour boucler une sorte de grande enquête sur des disparitions de prédateurs. Donc c'est relevé, c'est drôle, c'est...
La scène avec les paresseux.
D'émancipation. Et il y a peut-être la scène la plus drôle de tout le cinéma d'animation.
La plus lente et la plus drôle.
La plus lente et la plus drôle. Puisque à un certain moment, Judy, la petite lapine, au cours de son enquête, va demander un renseignement à un guichet et le guichet est tenu par un paresseux.
Et c'est incroyable.
La scène dure vraiment, vraiment très
longtemps.
Merci Thibaut pour le conseil donc de Zootopie. Alors Grégory Cohen, Le Comte de Monte Cristo d'après Dumas est donc sorti en vidéo. C'est un film de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière avec notamment Pierre Niney dans le rôle titre. Et c'est votre choix.
Ah bah c'est exceptionnel. Alors en fait j'avais absolument pas compris la question. Si j'avais bien compris la question, j'aurais sans doute dit Wayne's World, qui est un des films qui a été fondateur pour moi. Mais en réalité, là, sur ce film 2024, c'est un film avec tout ce que je peux aimer. J'ai l'impression d'avoir un film sorti des gros studios US. Il dure très longtemps, mais il passe à une vitesse absolument dingue. Il est fabuleux dans le sens où tous les seconds rôles sont juste exceptionnels, les décors sont fous, tout a été écrit de façon absolument dingue. On connaît l'histoire, donc je ne vais pas rentrer dedans, mais film fabuleux.
Oh ben, je suis complètement d'accord. Ouais, j'ai fait un de mes amis. Je suis très contente d'ailleurs. Vous arrêtez pas de citer des films où j'ai fait mes amis du vendredi dessus. Hein.
On fait rien ouais, faire copier. Ouais.
Ça me donne tellement raison. Mais bon, mais oui, Le Comte de Monte Cristo, grande, belle œuvre à la française. Et les Américains, ils ont qu'à bien se tenir, messieurs, dames.
Et pour ma part, je vous recommande l'adaptation radiophonique du Comte de Monte Cristo
aussi.
En 1980, réalisée par Jean-Jacques Vierne. C'est vraiment un chef-d'œuvre radiophonique, un véritable film sans images. L'un des nombreux trésors de l'INA.
Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas.
Qu'est-ce que c'est ?
Que se passe-t-il ?
Edmond Dantès, au nom de la loi, je vous arrête.
Oh. Edmond !
Ne faites pas le...
M'arrêter, mais pourquoi ?
Je l'ignore, monsieur, mais votre premier interrogatoire vous l'apprendra.
Merci, mes amis, merci, merci. Mais soyez tranquilles, tout va s'expliquer. J'ai confiance. Je suis sûr que je n'irai même pas jusqu'à la prison.
Mais nous en sommes tous convaincus, Dantès. N'est-ce pas, mes amis ?
Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Santini, Pierre Arditi, Alain Mottet, Martine Sarcé, un podcast INA que vous pouvez retrouver sur l'appli Radio France. 38 épisodes de 30 minutes. C'est une adaptation de Serge Martel et Pierre Dupriez. Guillemette Audicino, vous avez adoré aussi. Hein.
Ah bah j'ai adoré parce que d'abord, bah, j'ai obéi à Ali Rebéi. Hein. Bon, Ali Rebéi dit, j'ai découvert un truc super. Écoute. Bah on écoute. Hein. Et donc, on écoute. Mais oui,
j'ai l'impression
et en
que vous
fait...
parlez de Kim Jong-un.
Oui. Mais ce qui est bien, c'est que le fait, de temps en temps, le fait d'obéir, finalement, a des bienfaits. Et donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vraiment une adaptation. Puis en plus, ce plaisir du feuilleton radiophonique, on a toujours l'impression que c'est un peu vieillot. Et en fait, on s'aperçoit à quel point parler uniquement à nos oreilles, c'est moderne.
Tiens, on passe aux livres qui vont vous faire du bien ce début d'année. Chrissy Lapelle-Edouelle, vous avez choisi un livre de Laure Murat, Relire, enquête sur une passion littéraire, publié en poche chez Champs Essais. Laure Murat, professeure au département d'études françaises et francophones de l'Université de Californie à Los Angeles. Et un petit bijou.
Ah, un bijou, absolument. On se pose souvent la question. D'ailleurs, Laure Murat est venue dans cette émission même et c'était extraordinaire. Et elle a une manière, Laure Murat, de aborder la question de la lecture qui donne instantanément, et de la relecture, instantanément envie de se replonger. Vous avez parlé du Comte de Monte Cristo. Eh bien, ça, c'est un très bon exemple. De se replonger dans une lecture qu'on a faite adolescent ou plus jeune, et de découvrir des choses absolument nouvelles qui nous avaient totalement échappé. Et ça, c'est un bonheur, un régal. Et Laure Murat, vraiment, un talent de plume tellement magnifique, tellement évocateur, que voilà, je ne peux que vous conseiller ça, et d'enchaîner tout de suite derrière avec Proust, un roman familial qui est un bijou. Voilà.
Vous, Théodore Dillerin, vous nous recommandez en ce début d'année de lire Roman de gare de Philibert Hume, sorti il y a quelques mois aux éditions des Équateurs.
Oui, absolument. Philibert Hume, on l'avait découvert il y a 2 ans pour un titre complètement loufoque qui s'appelait Roman Fleuve, qui avait eu le prix Interallié d'ailleurs. L'histoire de 3 copains qui partent comme ça faire une croisière sur la Seine et à qui il va arriver plein d'aventures. Et là, on le retrouve 2 ans après. Son conseiller bancaire lui dit qu'il a plus une thune sur son compte et qu'il faut qu'il fasse rentrer de l'argent. Eh ben, il va faire la même chose, mais il va abandonner le bateau pour le train, et avec un copain, ils vont partir explorer le vaste monde, devenir des hobos. Mais attention, parce
des
que...
Des hobos,
le...
c'est des sans-abri.
Oui, enfin, des voyageurs vagabonds. Sans le sou, des vagabonds, merci Christian.
Des vagabonds du rail.
Et ils vont partir sur des trains de marchandises de Villeneuve-Saint-Georges, explorer la France profonde, le tout dans un humour qui est absolument génial. C'est drôle, mais pas débile, et ça, c'est rare. Philibert Hume, roman de gare. Aux Équateurs.
Guillemette Audicino, vous recommandez tous les polars de Jackie Schwartzman qu'on retrouve en poche chez divers éditeurs.
Oui, et qui au départ est édité au Seuil. Écoutez, je vous recommande Demain c'est loin. Demain c'est loin où un type a des problèmes d'agio et finit par se retrouver en cavale avec la banquière qui au départ lui réclamait des agio. Je vous conseille ô combien Shit, l'histoire d'un petit surveillant de collège dans un quartier un peu pourri de Besançon et qui, il y a du trafic de shit dans son immeuble. Mais finalement, il se retrouve avec un gros paquet de cam. Comment il va faire avec une petite voisine très sympa pour rendre la chose beaucoup plus généreuse et humaniste que prévu? C'est, franchement, le style de Jackie Schwartzman, c'est, ça va à 100 à l'heure, c'est d'une drôlerie pas possible. Et alors, dans le chaos actuel, ça vous raconte tout ce qui craint dans la société, avec un regard qui fait un bien fou, grand coup de pied dans la fourmilière. C'est le genre de polar corrosif que j'adore.
Jackie Schwartzman, Julie Neveu, oui. Selon vos mots, votre choix, eh bien, c'est génial et tarte. les enfants de la terre, oui. Une saga en 6 volumes, oui. De Jean M. OL, je ne sais pas
tout
si on prononce bien,
bien,
et c'est publié chez Pocket.
Tout à fait, c'est une fiction préhistorique, et donc si vous voulez en fait ne pas vivre 2025 si ça se passe mal, ben, vous n'avez qu'à aller sous la double couette de Julien avec les 6 volumes, et en fait on ne s'arrête pas, c'est hyper prenant. Non mais c'est incroyable, c'est Ayla, une jeune petite fille, puis après femme puissante, intelligente, qui est adoptée par une tribu de Néandertal alors qu'elle est Cro-Magnon, qui en fait va apprendre la survie, l'art des guérisseurs, des guérisseuses, qui va se battre, et c'est magnifique, c'est vraiment très très documenté. James Howell a fait des tas d'enquêtes de recherche paléontologie, préhistoire, spéologie, climatologie, la vie de l'homme. Enfin, c'est génial, c'est magnifique. Et voilà, et c'est en effet un petit peu parfois à la limite de 40 nuances degrés. Parfois.
Rappelez le titre.
C'est Les Enfants de la Terre en 6 volumes, donc fiction préhistorique qui traite de vraies matières romanesques.
Julien Bisson, votre choix.
La Fabrique du Prince Charmant de Ovidie et Sophie-Marie Larouille au Seuil, sous-titré Plus grande arnaque depuis l'invention du jacuzzi. C'est une parodie de roman photo. Alors le roman photo, c'est le romantisme cucu d'habitude. Et donc là, elle va reprendre les mêmes images du roman photo, ambiance années 70, sauf qu'elle va y mettre une grille féministe avec toute elle s'amuse avec une ironie envers les mâles déconstruits et la façon dont les relations de couple peuvent se passer au 21e siècle, enfin dans un 21e siècle de plus en plus tardif. J'ai adoré, c'est très drôle. Et en tant que mec, ça nous permet aussi de nous remettre un peu à notre place sur ce qu'on dit aux femmes.
Rappelez le titre.
Ça s'appelle La Fabrique du Prince Charmant.
Grégory Cohen.
Ah bah moi c'est Johannes Farr, le chat du rabbin. J'adore. En fait, ça m'a fait penser à Rabbi Jacob. Dans Rabbi Jacob, on dit comment un juif répond à une question. Eh bah, en posant une autre question. Et c'est exactement ça. Le chat a mangé le perroquet du rabbin. Et du coup, il peut parler. Et il peut parler, du coup, il questionne tout. Il questionne le rabbin, le judaïsme, la Torah, la gamétria, tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Et le rabbin lui répond de façon naïve, de façon sympa, parfois de façon agacée. Et puis ce chat commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Ça se passe en Algérie, dans l'Algérie de mes parents, du XXe siècle. Et c'est vraiment, vraiment hyper canon.
Allez, une série qui fait du bien. Une série feel good pour bien commencer 2025, Sandra Colombo, vous nous conseillez, et je me joins à vous, et Grégory Cohen aussi, et Julien Bisson aussi, Ted Lasso, créé par Bill Lawrence et Jason Sudeikis, disponible sur MyCanal et Apple TV. Bah franchement, pour moi, c'est la série idéale par temps anxiogène.
Il y a 3 saisons en plus, donc on a vraiment de quoi s'occuper. Et franchement, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi emballée par une série dont je garde des souvenirs, des épisodes qui sont vraiment ancrés dans ma tête. J'ai adoré cette série. C'est drôle, c'est intelligent, c'est empathique. C'est l'histoire d'un entraîneur de football américain qui est
nommé dans,
nommé
une, équipe
dans une équipe de foot anglais dont il ne connaît absolument pas les règles. Il arrive et sa méthode de management, c'est d'offrir des cookies tous les matins. Et il est à fond et il est vraiment dans des trucs hyper positifs et il se prend des murs, des tôles et il s'en sort. C'est drôlissime et c'est... Mais c'est vraiment chouette.
Et il y a une belle évolution au cours des trois saisons, absolument formidable.
Et les seconds rôles sont géniaux. Tout le monde est super. Enfin, franchement...
Julien Bisson.
Oui, et puis surtout, il faut dire, vous n'avez pas du tout besoin d'aimer le foot pour lire ce programme.
Ah oui,
série.
Moi je c'est déteste vraiment, le foot.
Vous détestez le foot, vous allez quand même aimer cette série.
Ah oui.
Oui, c'est tout sauf le foot. C'est vraiment, quand on parle des pays anglo-saxons, on se rend compte de la différence totale entre l'Amérique et l'Angleterre. Où l'Amérique arrive avec plein de méthodologies, de feel-good, de positivité, etc. Et là, on est dans le vieux continent, en Europe, en plus dans un truc hyper traditionnel, du foot, quoi, un club de foot. Et on a ce type-là qui arrive et qui change les vies des gens et qui change sa propre vie aussi.
Ah ouais.
C'est profondément humain et humaniste.
Guillemette Odissino.
Non, mais je suis d'accord. En fait, c'est un espèce de choc des cultures. Et c'est le choc de la bienveillance contre le cynisme, le choc, effectivement, de l'ancien monde et du nouveau monde. Et puis, un personnage. En fait, c'est pas si fréquent. La plupart du temps, on s'attache à des personnages qui ont un peu un double fond un peu complexe, finalement plus noir que prévu. Alors, lui, il est rose. Rose, ah ouais. Et c'est ça qui est, mais ça fait un bien fou. On se demande comment on pourrait être aussi sympathique que ce type.
Ted Lasso à voir sur les plateformes MyCanal et Apple TV. Allez, il est temps de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, rend bien vous face.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Alors Thibaut, en ce tout début d'année 2025, vous vous demandez s'il est bien raisonnable d'être optimiste.
Oui Ali, puisqu'une nouvelle année commence, par définition, on ne sait pas trop ce qu'elle nous réserve. Tout peut arriver, le pire bien sûr, mais aussi pourquoi pas le meilleur. Puisqu'après tout, comme disait ma grand-mère, le pire n'est jamais sûr. Alors, puisque l'année commence et puisque nous avons survécu déjà aux fêtes de fin d'année, puisque nous sommes encore plein de bonnes résolutions et pas encore rattrapés par le blues du mois de janvier, pourquoi ne pas être optimiste ? Dans la vie de tous les jours, les optimistes sont un peu comme des croyants. Ils croient en un avenir meilleur. Ils ont cette confiance-là qui leur fait toujours voir le bon côté des choses, qui, puisqu'ils croient que les conséquences seront toujours bonnes. Mais face à la réalité, il est parfois difficile de ne pas reprocher aux optimistes leur naïveté. Face aux catastrophes quotidiennes et aux malheurs qui frappent, l'optimiste manquerait de lucidité et serait même totalement aveuglé. Alors est-il vraiment sage d'être optimiste ? N'est-ce pas au contraire totalement inconscient ? Ne faut-il pas plutôt faire preuve de prudence, se méfier, anticiper constamment la catastrophe pour ne pas prendre le risque de l'échec ou de la déception ? N'est-ce donc pas plutôt le pessimisme qui serait l'attitude la plus sage.
Alors peut-être Thibaut, mais en même temps, vivre de façon pessimiste, ça ne fait pas vraiment rêver.
Non, ça ne fait pas rêver parce que si l'on y réfléchit deux minutes et que l'on va tout au bout du pessimisme, mais alors vraiment tout au bout, il devient rigoureusement impossible d'être heureux. Alors peut-être faut-il approfondir à l'envers notre compréhension de l'optimisme. Si l'optimisme est la confiance en un avenir meilleur, c'est d'abord parce qu'il repose sur la confiance dans la capacité des individus et des peuples à améliorer leurs conditions d'existence par leurs propres moyens. On retrouve là toute la puissance de la philosophie des Lumières et de son concept de progrès grâce au développement de l'usage de la raison. Et c'est sur cet optimisme-là que les grandes révolutions morales et politiques du XVIIIe siècle se sont construites. L'optimisme ici est donc moins une confiance en l'avenir qu'une confiance en l'homme. L'optimisme est donc un humanisme. Reste, me direz-vous, le problème du mal et de la méchanceté des hommes. Et c'est un très gros reste. Comment être optimiste, avoir confiance en l'humanité quand celle-ci est capable de tant d'horreurs ? On peut alors faire un pas de plus dans la compréhension de l'optimisme grâce à la philosophie de Leibniz. Pour Leibniz, l'optimisme, c'est d'abord une certaine conception métaphysique selon laquelle le monde dans lequel nous vivons précisément est le meilleur des mondes possible. Le meilleur des mondes possible alors même qu'il y a du mal dedans. Et c'est là où l'on comprend que l'optimisme ne nie pas le mal et qu'il ne le justifie pas non plus, mais qu'il est capable de l'affronter et de le réduire. Être optimiste en ce sens, c'est avoir confiance en l'avenir de l'homme et donc savoir que le bonheur est possible malgré le mal, malgré les catastrophes naturelles et malgré la méchanceté des hommes de ce monde. Il ne faut donc pas se moquer des optimistes, c'est tout sauf de la naïveté. L'optimisme est un choix, un engagement de chaque instant, une lutte sans cesse recommencée. Il faut du courage pour être optimiste et c'est le pessimisme plutôt qui est la solution de facilité. En ce tout début d'année, l'optimisme n'est-elle pas alors la plus belle des résolutions à prendre ? Car comme le remarque cette fois le philosophe Bergson, le futur n'est pas ce qui arrive, mais ce que nous allons faire.
Leibniz. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de Leibniz.
Ouais,
ça me rappelle les monades, c'est ça ? C'est l'histoire voilà, des monades,
c'est ça, hein, les monades.
C'est
ça, nous oui. sommes des monades.
Souvenir du terminal. Merci beaucoup Thibaut de Saint-Maurice. On Bravo. Peut évidemment retrouver votre chronique sur l'appli Radio France. Allez, après les nourritures intellectuelles, les nourritures bien terrestres de la bande du vendredi. Allez les amis, quels sont vos plats réconfortants en ce début d'année ? Tiens Guillemette.
Escalope à la crème avec des frites maison. Voilà. D'ailleurs, je vais y aller. Faut que j'aille faire chauffer la friteuse. Pendant les fêtes, là, on a un peu mangé des trucs gras, mais souvent des trucs poissonneux, ou des marrons, ou des... Et on a oublié les frites. Non mais attendez, parce que les frites quand même. Ça veut dire, le problème c'est que les frites, c'est vraiment pendant Noël qu'on n'en mange pas, donc il faut se dépêcher d'en manger. Et on les trempe dans la crème, voilà.
Thibaut, cake aux fruits confits ?
Oui, vraiment, de classique de l'hiver. Ouais. Et avec une petite technique, je parle sous le contrôle de Grégory Cohen, mais si vous faites un cake et que vous mettez comme moi les fruits confits et que vous avez toujours ouvert votre cake ensuite et que tous les fruits confits sont descendus au fond, en fait, il faut mettre un peu de farine sur les fruits confits, comme ça ils restent à leur place pendant la cuisson.
Théodore, vous, c'est un mont d'or au four avec des pommes de terre.
Bah oui, hein, moi, après avoir mangé gras pendant toutes les fêtes, je continue sur cette pente. Hein, des bons monts d'or au lait cru. Et s'il en reste un peu au fond de la boîte, ce qui est quand même rare chez moi, on peut faire un gratin de pâtes dedans. On réutilise la boîte, on met des pâtes, de la crème, du bon comté. C'est une recette de Pierre Coulon qui est dans son livre Le bon savoir du fromage et c'est absolument génial.
Vous, Sandra, dans le même genre, tout oui. ce qui est à base de fromage fondu.
Ah oui, tout, n'importe quoi. Moi, je suis tellement addict au fromage fondu que je le mets au micro-ondes chez moi, c'est pour vous dire, mon micro-ondes est une puanteur. Hein. On l'ouvre, on est là, ah dis donc, ça sent la vieille chaussette.
Envie,
hein. Mais moi, je suis team
envie.
Fromage.
C'est bien ça.
Team fromage au fromage.
Grégory Cohen, pot-au-feu.
Le pot-au-feu, j'en perds mes trucs de Rennes. Évidemment, le pot-au-feu, c'est génial. C'est des légumes, du bouillon. Donc déjà là, on peut être super light après avoir fait tous les excès possibles et imaginables pendant les fêtes. Et puis, c'est une viande qui est incroyablement fondante et tendre, qu'on peut manger après même dans un sandwich, on va être hyper décadent, avec des frites.
Julie, saucisse de morteau au haricot blanc.
Oui, avec beaucoup de tomates. Je trouve que c'est vraiment un plat qui fait du bien, qui redonne le moral. Et puis les haricots pas trop cuits, vraiment al dente. Et puis il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de saucisses de morteau, on peut l'utiliser en 2-3 fois, mais juste pour donner un petit goût fumé, c'est super bon.
Christina ?
Oh bah alors moi, c'est le bœuf bourguignon, bien sûr. Et surtout, très important, mariner au moins 12 heures avec des oignons et tout ce que vous voulez. Et avec du bon vin, j'insiste là-dessus, un vrai Bourgogne et pas une piquette de n'importe quoi.
Julien, des rigatoni à la gricia.
Gricia. C'est une sauce italienne très simple à faire puisque c'est du pecorino, du guanciale qu'on a fait rissoler et puis un peu de poivre. Et vous servez ça avec des rigatoni parce qu'il faut des pâtes creuses qui vont bien ramasser la sauce. Et vous laissez surtout toute l'odeur du guanciale qui a rissolé dans la cuisine. C'est parfait. Pour l'hiver, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut.
Allez, dans un instant, la chronique de Sandra Colombo, mauvaise langue. Juste après avoir écouté Hervé qui interprète moins une.
Le ventilo tournant. Pendant que je brasse de l'air, le même qu'hier, putain. Je ferme les yeux pour voir la mer. Je ferme les yeux pour voir la mer. Elle défile sur le bandeau. L'info paramilitaire, est-ce qu'ils auront ma peau? Je commence à croire que j'ai peur. Je commence à croire que j'espère. des échos, des destins par tonnerre, en manque d'avis pour l'ego. Est-ce qu'on notera qui m'enterre? Est-ce qu'on notera qui m'enterre? À quoi bon chercher les mots si les sirènes chantent l'histoire? À chercher qui abonde si l'horizon pue l'horreur, ça retournera son pullover.
Hervé interprété moins une.
France Inter.
Bon bah, elle est gentille si on veut, mais malgré tout, elle manque un petit peu de fantaisie. Hein.
Rends bien vous fasse.
C'est cela, oui, oui. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille.
Sandra Colombo.
Oui, alors moi, je veux pas être mauvaise langue, Ali, mais si vous comptiez sur moi pour traiter le premier platane de l'année, c'est non.
Vous vouliez plutôt parler d'un marronnier, c'est ça, un sujet qui revient fréquemment à la même période de l'année?
Absolument pas, Ali. Un platane, l'arbre qui donne des platitudes. Oui, car quoi de plus platitude que les bonnes résolutions du début d'année? Alors, ne me demandez pas les miennes, hein, parce que moi, je n'en prends plus aucune. Voilà, j'ai décidé il y a plusieurs années de prendre comme bonne résolution pour toutes les années à venir, de ne plus prendre de bonnes résolutions. Pourquoi? Parce que comme 98% des gens, eh bien je ne les tiens pas plus de 2 jours. Et qu'est-ce que ça me fait? Eh bien, ça me fait du mal. Parce que quand je me dis, à partir de cette année, je me mets au sport 3 fois par semaine minimum, et que comme je suis futée, je paye la salle de sport pour 1 an, parce que bon, c'est beaucoup moins cher par mois hein, si tu prends sur 12 mois. Ouais, ok, t'es engagé sur 1 an, mais moi, l'engagement, ça me fait pas peur, ok? Et que j'y vais que 3 fois sur toute la durée de mon abonnement, je me sens comment? Nul. Voilà, tandis que les salles de sport, elles sont très contentes parce que c'est sur notre nullité que repose leur modèle économique. Car 40% des abonnés n'y vont jamais. Oui, parce qu'on est futé, mais on est fainéant également. Donc pardon, mais sachant que mon porte-monnaie aura bien plus de chances de maigrir que mon tour de taille, je vais pas me dire « en janvier, je m'y mets ». Non, d'ailleurs, en y réfléchissant, je crois que les bonnes résolutions, c'est un complot mondial visant à nous faire sentir mal. Parce que quand on se sent mal, qu'est-ce qu'on fait? On mange du chocolat. Et quel chocolat on a encore sous la main en janvier? Bah, les pas terribles qu'on a récoltés au Secret Santa de notre entreprise. Et voilà la solution pour finir toutes les boîtes de mauvais chocolat qu'on a reçues pour Noël. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec tout ce chocolat, on ne rentre plus dans son jean favori. Donc, qu'est-ce qui se passe? On décide de se mettre au régime. Régime qui, pour 98% des gens, fait partie des bonnes résolutions de janvier. Mais c'est intenable, car janvier, c'est quoi? C'est la galette des rois. Vous voyez? Donc, c'est voué à l'échec. Alors donc, pourquoi on s'imposerait ça? Alors moi, Ali, je vous propose de prendre plutôt des mauvaises résolutions. Et comme vous êtes une bonne personne, j'imagine que vous n'avez aucune idée de ce que peut être une mauvaise résolution. Donc, je vous ai fait une petite liste.
Allez-y.
Alors, par exemple, ratez vos gâteaux. Ali, voilà, parce que peut-être que les auditeurs ne le savent pas, mais vous adorez pâtisser. Ce qui nous provoque quoi, Ali? Bah, d'une part, une culpabilité hein, chez les gens qui mangent vos délicieux gâteaux. Parce que s'ils sont bons, c'est bien parce qu'ils contiennent ce que Grégory Cohen essaye de nous faire passer pour des ingrédients light, c'est-à-dire autant de beurre que de sucre. Oh, il y en a un petit peu plus, je vous le laisse. N'hésitez pas, bien sûr. Et d'autre part, nous, on ne vous arrive pas à la spatule, donc nous ne sommes que jalousie. Voilà, Ali, donc une fois de temps en temps, s'il vous plaît, ratez, soyez mauvais. Oh là là, je vois à votre tête que vous n'êtes pas du tout séduit par mon idée.
Ouais.
Alors je vais plutôt vous citer ces mots sublimes de Jacques Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Bref, en ces moments où la colère a remplacé les rêves, eh bien je vous souhaite à tous et toutes une année aussi bonne que possible.
Guillemette.
Oh, merci. Merci pour cette phrase-là et merci pour les rêves à la place de la colère. Au moins rêver que nous soyons moins en colère.
Voilà.
Allez, vous pouvez vous abonner à la chronique Mauvaise Langue de Sandra Colombo sur l'appli Radio France. Merci aux amis du vendredi, Sandra, Christina, Julie, Grégory, Théodore, Guimette, Thibaut et Julien. J'espère que je n'oublie personne.
Bah, c'est celui qui est viré, qui est oublié. Allez, hop, hop.
Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron. Et lundi, on s'intéresse aux bienfaits des aliments fermentés sur le microbiote intestinal. L'occasion de revenir sur cet écosystème essentiel pour notre santé.